Bien, merci mes chers collègues de vous être libérés pour cette séance un peu extraordinaire du conseil municipal qui fait suite à la situation politique, si je puis dire, à Mouxie, avec une question principale à l'ordre du jour. On a reçu quelques excuses de certains de nos collègues qui n'ont pas pu être là. Pascal Peller, Evelyne Forner et Joachim Torres. Et on a aussi reçu quelques délégations de vote ou procurations de Fabrice Mossy à Dominique Fier qui est là, de Marie-Alix Bourbiot à moi-même et de Nathalie Murguet à Claudie Fraisse qui est là. Où est-ce qu'elle est, Claudie? Voilà, là-bas. Merci à tous. Un premier point à l'ordre du jour traditionnel qui est donc la communication des décisions prises par le maire depuis le dernier conseil municipal en vertu de l'article, des articles L21-22-22 et L21-22-23 du Code général des collectivités territoriales. Je demande simplement de me donner acte de cette communication, en vous remerciant. Le deuxième point à l'ordre du jour vise l'installation de notre nouveau collègue Dominique Fier en remplacement de Marion Gerlot qui, comme vous le savez, a quitté Aix-les-Bains pour des raisons professionnelles. Et donc, je vous propose, en lui souhaitant la bienvenue dans notre conseil, de déclarer que Dominique Fier est publiquement installé dans sa fonction de conseiller municipal d'Aix-les-Bains depuis le 6 janvier 2016, qui est, je crois, la date de démission de Marion. En application de l'article 21-21, 1 du Code général des collectivités territoriales, le tableau du conseil municipal qui détermine l'ordre des élus a donc été modifié en conséquence et affiché en mairie. Est-ce que ça... Oui, Serge Gatier.
Oui, le code L21-21 est assez vieux et il n'a pas pu être revu par les gens au pouvoir actuellement parce que ça s'est passé avant qu'ils ne viennent. Par contre, pour les élections cantonales ou départementales, on nous a imposé la parité. Hein, c'est-à-dire que chaque fois qu'une femme était démissionnée, elle était remplacée par une femme et vice-versa. J'ai regardé un peu sur Internet et effectivement, dans certains partis politiques, le candidat qui a été désigné, suivi, a démissionné et tout de suite après pour garder cette parité. C'est une remarque que je faisais.
Merci. Dominique Fier.
Oui, juste pour vous dire quelques mots. Donc, je suis bien sûr satisfait de rejoindre cette assemblée et participer à la vie municipale. Je pourrais donc y représenter celles et ceux qui ont soutenu dont les suffrages se sont portés sur notre liste Unis Citoyens. J'espère pouvoir contribuer de mon mieux au débat public. Ils défendent mes fortes convictions républicaines qui sont pour moi indissociables du combat social et écologique. Notre République, c'est la recherche de l'intérêt général de nos générations comme des générations à venir. C'est faire vivre la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce sera bien sûr dans les limites d'un conseiller de la minorité. Je ne partage pas, vous le savez, l'orientation actuelle de notre commune, notamment l'absence d'une réelle démocratie locale. Le projet des termes, des immobiliers sur les anciens termes, comme celui de la blanchisserie, en sont les derniers exemples. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter un peu plus tard.
Et sur la question de la parité que vous posez, Serge Gatier, pourquoi vous ne laissez pas la place à une femme ?
Vous
êtes un démocrate attaché à la parité, voilà, n'est-ce pas ?
Vous savez très bien comme moi que c'est pas il y a des règles précises, que c'est pas prévu à ce niveau-là, au niveau municipal, c'est prévu au niveau de l'agglomération, s'il y a un changement au niveau de l'agglomération, mais pas au niveau municipal. Mais je pense, vous inquiétez pas, je pense qu'il y aura des femmes qui viendront tôt ou tard.
Ah oui, donc vous voulez pas faire preuve de volontarisme en la matière ?
On verra.
Très bien, merci. En tout cas, soyez le bienvenu dans cette enceinte, même s'il faudra quand même que vous vous habituiez à considérer que ce n'est pas parce qu'un sujet ne vous convient pas qu'il n'est pas traité de manière démocratique. C'est deux choses un peu différentes néanmoins, mais vous vous habituerez, vous verrez. Alors, je pense que là-dessus, il n'y a pas de vote sur l'installation du conseiller. C'est uniquement une communication sur les suites, si je puis dire, de cette démission de Marion et du remplacement par Dominique. Marion représentait la commune dans un certain nombre d'instances. Et donc, je vous propose de modifier la composition d'un certain nombre de nos commissions ou de représentations en installant notre collègue Dominique Fier dans la commission municipale numéro 2, chargée de la culture, des affaires scolaires et sportives et de la vie associative, dans laquelle siégeait Marion. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette installation ? 2, pas d'abstention. Je vous remercie. Je vous propose que Dominique remplace également Marion ou succède à Marion au sein de la commission de délégation de services publics, qui est présidée soit par le maire, soit par son représentant, en l'occurrence Marie-Pierre Montoro-Sadou. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette élection de Dominique au sein de la commission de délégation de services publics ? 2, pas d'abstention. Je vous remercie. Je vous propose aussi d'élire Dominique en remplacement de Marion au sein de la commission communale des services publics locaux, qui est également présidée par le maire ou son représentant, le plus souvent Jean-Jacques Molly. Est-ce qu'il y a des oppositions ? 2, pas d'abstention. Merci. Et je vous propose enfin d'élire Dominique, suite à la démission de Marion, au comité directeur de l'Office du tourisme. Est-ce qu'il y a des oppositions ? 2, pas d'abstention. Merci. Il en est ainsi décidé. Dominique Fier est donc installé à la fois au conseil municipal et dans ces différents organismes ou commissions que nous venons de lister. Monsieur Gatier.
Oui, je tiens quand même à préciser, on a voté non, tout simplement parce que nous sommes quand même la minorité la plus représentée, la plus représentative des électeurs, comme le disait Monsieur Fier. Et c'est nous qui avions le moins de commissions, vous le savez très bien, notamment la commission du tourisme, auquel, depuis les élections, on nous avait dit qu'on étudierait notre présence. Mais c'est surtout le fait qu'on est absent de beaucoup de commissions.
Merci. Alors, j'ai plus en tête, c'est une affaire qui date déjà de 2014, la répartition exacte, mais a priori, on a fait ça à l'époque strictement, je pense, à la proportionnelle ou par vote quelquefois, ce qui vous a sans doute valu en effet de peut-être d'être un peu moins représenté par le vote. Cela dit, je m'étais engagé vis-à-vis de vous sur l'Office du tourisme. Voilà, donc il faut qu'on trouve, Michel, c'est plutôt un oubli de notre part, une manière de vous associer, que vous puissiez, que vous puissiez participer aux travaux de l'Office. Fatia.
Oui, bonsoir. Alors moi, je voudrais répondre à M. Gatier qu'ils ne sont pas représentatifs, puisque si on ajoute nos deux listes, nous sommes beaucoup plus représentatifs qu'eux.
Mais vous vous êtes présenté sur deux listes différentes. Merci Fatia pour cette précision. Bon, nous, on ose à peine vous dire qu'on est aussi un peu plus représentatif, mais voilà, on ne veut pas se mêler à ce concert. Voilà, alors la séance, elle est principalement motivée par la délibération qui arrive, que Renaud Beretti va nous présenter. Je rappelle qu'il s'agit, suite à la démission de plusieurs conseillers à Mouxy, j'ai vu d'ailleurs que Chambéry avait le même sujet sur Puygros, je crois, avant que l'élection nouvelle puisse avoir lieu, la loi qui a changé entre-temps prévoit que l'accord de représentation des communes au sein de l'agglomération soit revalidé ou modifié. Et c'est ce qui vous est proposé.
Merci, monsieur le maire, de tout dire. C'est bien aimable et pédagogique, mais du coup, j'ai plus rien à dire. Alors, du coup, je vais lire ce qui était prévu. Donc, effectivement, monsieur le maire et chers collègues, la délibération vise à approuver le nouvel accord local relatif à la répartition des sièges entre les communes membres de Grand Lac, donc anciennement Calbe. Et bon, voilà, cette délibération est obligatoire, puisque, comme le maire vient de vous le rappeler, une élection municipale partielle doit être organisée à Mouxie. Obligatoire suite à la démission du tiers des conseillers municipaux de cette commune. Vous avez suivi tout ça dans un feuilleton dans la presse. Et donc, il vous est proposé que l'effectif du conseil communautaire soit porté à 58 délégués, c'est-à-dire 11 sièges supplémentaires, répartis selon un tableau que normalement vous avez joint à la délibération, hein, avec le nom des communes et le nombre de délégués par commune. Et vous pouvez y lire que pour ce qui nous concerne, Aix-les-Bains, eh bien, nous conservons le même nombre de sièges de délégués, c'est-à-dire de 26. Voilà, donc il vous est proposé d'adopter ce nouvel accord local.
Merci Renaud. Est-ce qu'il y a des questions sur cette affaire, Dominique ?
Oui, je désire d'abord faire une remarque préliminaire sur la réforme territoriale qui est liée également à cela. Nous sommes bien entendu favorables à la mise en commun de moyens et de compétences dans le cadre de l'intercommunalité, mais comme ailleurs, nous considérons essentielle l'implication citoyenne pour toute fusion ou transfert de compétences. La démocratie communale doit rester la base de notre République. Les réformes territoriales actuelles, imposées par le gouvernement, s'exécutent sans opposition réelle de la droite. La création de nouvelles grandes régions ou de métropoles concurrentielles, les fusions ou suppressions de départements, des regroupements forcés de communes et de communautés de communes. Tout cela éloigne pour nous la démocratie locale du citoyen. Concernant l'augmentation décidée du nombre de délégués de la CAB, nous ne pensons pas que ce soit une amélioration. La répartition à la plus forte moyenne, même avec une représentation minimum pour les plus petites communes, favorise toujours les plus grosses et écrase d'une certaine manière les petites. Alors que nous allons voter aujourd'hui sur une nouvelle répartition de délégués, nous nous acheminons vers un élargissement imposé à la population de la communauté d'agglomération, heureusement sur les Bauges.
Ça la
Après la
plaisir.
Fusion de certaines...
Vous êtes content.
Après la fusion de certaines communes, sans demander l'avis des citoyens, celles de communautés s'émailleront encore plus les citoyens des décisions. Nous désirons connaître si une analyse a déjà été faite en tenant compte du nouveau périmètre qui devra arriver prochainement. Et si oui, quels seront les futurs changements ?
Bien, merci Dominique. Bon, j'espère qu'à chaque question du conseil municipal, vous ne referez pas la politique du monde entier, hein, parce que sinon, nos séances vont être sérieusement allongées, puisque là, vous posez une question qui est strictement à côté de la question nous est demandée de traiter. Par ailleurs, vous vous êtes cru obligé de polémiquer, mais vous le faites à chaque fois, en disant que c'était sans opposition réelle de la droite. Est-ce que je dois vous expliquer que c'est avec l'accord intégral de la gauche, pour essayer de peut-être remettre quand même les choses comme elles doivent l'être. C'est pas nous qui avons voté cette réforme, cher monsieur Fier. Moi, je serai vous, je commencerai déjà par balayer devant ma propre porte. Pour ce qui concerne le reste... de ce que vous avez dit sur la loi NOTRe et ses conséquences. Je rappelle que la fusion avec la Chautagne et l'Albanais n'est pas précisément liée à la loi NOTRe, mais à la révision du schéma départemental de coopération intercommunale qui aurait eu lieu de toute façon même sans la loi NOTRe, ce qui prouve qu'en plus vous dites des choses qui ne sont pas exactes. Et que par ailleurs, même si effectivement c'est la loi ou c'est l'État qui nous l'impose, la communauté d'agglomération du lac du Bourget, la communauté de communes de Chautagne, la communauté de communes de l'Albanais, qui ont vocation à travailler toutes les trois ensemble, ont toutes les trois voté favorablement à cette fusion. Donc, voilà, il faut essayer de ne pas dire des choses qui soient trop polémiques et trop fausses, surtout quand on n'est pas très sûr de ses arguments. Pour le reste, sur la répartition nouvelle des sièges, bien entendu qu'il y a des approches qui sont déjà faites, mais comme vous le savez, Il y aura, c'est le souhait du président de l'agglomération que je suis pour l'instant, aussi un accord local. Et un accord local, comme vous le savez, ça ne se préjuge pas, ça se construit. Et donc l'accord local, il reste à construire avec ceux qui seront autour de la table pour cet accord local. Et je rappelle que, contrairement à ce que vous avez dit également, l'accord local accepté par Aix-les-Bains jusqu'à présent et demain encore réduit le poids de la grande ville par rapport aux petites communes. Et donc, vous voyez, sur tous ces sujets où vous donnez facilement des leçons de morale à tout le monde, il me semble qu'on est plutôt exemplaire, au maximum en tout cas de ce qu'on peut l'être, dans le cadre d'une loi qui a été votée par vos familles politiques et pas par la mienne. Je vous remercie. Et sur la répartition donc nouvelle des sièges dans le cadre de ce nouvel accord local, est-ce qu'il y a des oppositions? Ah, excuse-moi, il y a des prises de parole, pardon. André, puis Serge aussi.
J'ai juste une question sur la date de validité de cette modification votée par le conseil municipal d'Aix-les-Bains et sa prise en compte par la CALB. Et au-delà, ça sera donc valable que 8 mois, puisqu'au 1er janvier 2017, normalement, il y aura une fusion avec d'autres agglos. Moi, je souhaite personnellement que les Bauges, qui font partie, dont nous sommes porte d'entrée du parc naturel régional, viennent enfin chez nous et pas sur Chambéry. Mais ça, ce n'est pas moi qui déciderai. Sauf si on fait forte pression auprès du préfet, qui, lui, n'est qu'un exécuteur de la volonté publique. Voilà, donc la projection des sièges avec... les deux autres agglos qui, pour l'instant, sont pressentis pour venir former le Grand Lac n'est certainement pas encore faite. Mais est-ce qu'il y a risque que des conseillers municipaux élus conseillers communautaires à Aix-les-Bains, par le suffrage universel, ne soient plus, à partir du 1er janvier 2017, conseillers communautaires, c'est-à-dire que le préfet déferait une décision des électeurs?
Alors... bon, sur les Bauges, c'est là qu'on voit que vous êtes pluriel, puisque vous n'êtes pas d'accord. La vérité, c'est que la petite expérience que j'ai de cette affaire, c'est déjà très compliqué de se marier à trois, avec les deux autres communautés, oui, si je puis dire. Donc, et alors, à quatre, c'est encore plus compliqué, parce qu'en réalité, si vous voulez, on va fusionner, mais... on n'exerce pas les mêmes compétences et pas de la même manière. On n'a pas les mêmes niveaux de fiscalité. Or, il va falloir harmoniser les niveaux de fiscalité. Et en effet, il y a un problème de gouvernance, puisqu'un certain nombre de conseillers intercommunaux de chez nous, mais aussi de Chautagne et de l'Albanais, à l'occasion de cette fusion, vont passer à la trappe. C'est-à-dire ne vont plus être conseillers communautaires de la nouvelle agglomération. Donc inutile de vous dire que ça ne fait pas que des heureux, cette affaire, avec des conseillers qui se sont engagés bénévolement dans les communes, qui sont beaucoup impliqués et qui se retrouvent effectivement à la porte. Pour Aix-les-Bains, je ne sais plus vous dire, j'ai les chiffres, je ne les ai plus en tête, peut-être une variation à la marge sur un ou peut-être deux conseillers municipaux. Ça va dépendre un peu de l'accord local, justement. Si Aix-les-Bains accepte de perdre un peu de poids au profit des plus petites communes, ça peut peut-être remettre en cause le nombre d'élus. Mais je ne crois pas. Je crois qu'on va rester stable de ce que j'ai en tête. Contrairement à ce que disait Dominique tout à l'heure, d'ailleurs, les petites communes ont un poids relatif beaucoup plus important que les grosses dans ces intercommunalités, puisque même une commune qui aurait 60 habitants, c'est par exemple le cas d'Ontex, a un représentant. C'est-à-dire qu'il y a une différence de représentation des communes qui est considérable, avec pour les plus petites communes un représentant, donc pour 100 habitants à peu près, dans le cas d'Ontex, mais quelquefois un pour 200, un pour 150, etc. Alors que nous, on est sur un pour 1000. Donc le poids relatif de la représentation des petites communes est beaucoup plus fort. Vous voyez, l'agglomération d'Aix a 17 communes aujourd'hui. Donc au bureau, qui est l'instance exécutive de l'agglomération, il y a 17 maires qui sont présents. La Chautagne va venir avec 8 maires de plus. Et l'Albanais, s'ils n'avaient pas créé la commune nouvelle, venait également avec 8. Donc on se serait retrouvé avec un poids des territoires ruraux et des plus petites communes qui en réalité est beaucoup plus important que le poids réel de la population. Or, l'agglomération a aussi un certain nombre de compétences qui ne concernent pratiquement que les zones urbaines. Je pense en particulier à la politique de la ville. Et donc c'est vrai qu'il y a un peu un décalage dans la représentation. En même temps, d'un point de vue démocratique, on peut évidemment, on ne peut que comprendre que toutes les communes aient au moins un représentant, et c'est ce qui fait cette disproportion. Serge.
Bien, c'est justement le sujet de la démocratie. Je voulais simplement dire que nous, petites minorités qui avons peu de commissions, on a quand même autant de représentants qu'eux à la CALB. Donc la démocratie est bien respectée.
Bon, là, vous n'êtes pas d'accord non plus, mais ça m'étonne moins. Donc, merci de cette remarque. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Donc, sur ce nouvel accord local, tel que la loi nous oblige à le délibérer et dont il nous dicte les termes en encadrant les possibilités d'accord entre les communes grandes et petites, est-ce qu'il y a des oppositions ? Vous représentez Fabrice aussi ? 2. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Aucune. Je vous remercie. On a épuisé l'ordre du jour du Conseil. On a néanmoins deux sujets qui nous sont posés par une de nos minorités. Une question orale, tout d'abord, dont je fais remarquer qu'elle est arrivée hors délai par rapport à notre règlement intérieur sur lequel vous avez pourtant été tellement acharné pendant des années, c'est-à-dire que normalement nous ne devrions pas l'examiner, mais par bonté d'âme, n'est-ce pas, on va le faire. Le règlement intérieur prévoit 5 jours, vous nous l'avez envoyé à 4, mais néanmoins, Monsieur Fier, je vous laisse vous exprimer sur cette question décisive.
Donc c'est une question orale rédigée par Fabrice Mossi, qui aujourd'hui ne peut pas être présent. Ça concerne donc la délocalisation du Pôle France et Espoir de gymnastique aérobique. Depuis quelques semaines, les personnes impliquées ou attachées à l'existence du Pôle France et Espoir de gymnastique aérobique d'Aix-les-Bains ont appris avec stupeur, peu d'égards et peu d'explications, la délocalisation à très court terme, la rentrée de septembre, de cette structure nationale, probablement au profit du CREPS d'Aix-en-Provence ou du site clermontois du CREPS de Vichy. Interrogée par la presse régionale, la direction technique nationale de la Fédération française de gymnastique a évoqué l'insuffisance de l'environnement du pôle, notamment en matière de suivi médical, scolaire et universitaire, et de préparation à l'après-carrière sportive. La volonté conjointe du ministère de tutelle et de la Fédération semble être aussi de mutualiser des moyens humains et matériels avec d'autres pôles, d'autres fédérations sportives. Tout comme les jeunes sportifs, leurs familles et leur encadrement, cette décision nous blesse. Vous, comme nous, savez que la structure actuelle, adossée à un club expérimenté et exigeant, a fait la preuve de son efficacité sportive en recueillant ces dernières années des résultats au plus haut niveau européen et mondial. Nous apprécions tous qu'elle ait même contribué à la création d'un événement local nouveau à travers l'Aqua Open Club. Je sais aussi personnellement, là c'est Fabrice qui parle, pour avoir été souvent l'enseignant chanceux de ces jeunes gymnastes, qu'ils constituent un exemple pour leur génération à travers leur capacité à mener de front une scolarité souvent brillante, une préparation sportive lourde et un calendrier de compétition prenant. C'est pourquoi nous vous demandons, monsieur le député maire, de faire le maximum pour que le ministère et la FFG reviennent sur leurs décisions. Nous savons malheureusement que son bilan sportif ne suffira pas à défendre le pôle d'Aix-les-Bains. En 2014, lors des élections municipales, mon groupe avait défendu l'idée de mieux structurer le sport de haut niveau à Aix-les-Bains en développant à la fois des filières sport-études aux emplois, du temps mieux adapté et un internat interdisciplinaire pour les jeunes sportifs concernés. C'est ce dernier, il est vrai, Sans ce dernier, il est vrai qu'attirer, encadrer, suivre au jour le jour ces jeunes personnes est plus complexe. Il nous semble que prendre l'engagement de réaliser rapidement cet internat pourrait effacer certaines insuffisances aujourd'hui reprochées au pôle aérobique d'Aix-les-Bains, alors qu'elles sont en fait celles de notre ville. Nos sportifs aixois et attirés par nos clubs excellents aussi en athlétisme, aviron, basketball, waterpolo et golf notamment, et de grands clubs chambériens pourraient fixer la présence de jeunes sportifs pratiquant le handball et le cyclisme à haut niveau. Cet internat ne servirait pas uniquement à conserver le pôle aérobique, mais à stabiliser et développer le sport de haut niveau à Aix-les-Bains et dans tout le bassin de vie. Les établissements scolaires d'Aix-les-Bains sont, je le sais, prêts à de multiples partenariats et adaptations, puisque les échanges et les projets sur ces sujets existent déjà avec des clubs. Il faut peut-être souligner auprès du ministère et de la FFG que l'Université de Savoie-Mont-Blanc a également pris l'habitude de s'adapter à ce public étudiant particulier. Enfin, nous disposons à Aix-les-Bains d'un tissu médical et paramédical bien orienté vers le sport et même d'entreprises innovantes dans la résolution des blessures de sportifs de haut niveau. Même si les liens sont peut-être à resserrer avec les structures sportives locales, le besoin d'adosser le pôle France d'aérobic à une grosse structure nationale à Clermont ou Aix-en-Provence ne saute pas non plus aux yeux sur ce sujet. Acceptez-vous, monsieur le député maire, d'aller dans ce sens pour défendre ce pôle menacé ? Merci.
Merci. Vous êtes excusable parce que ce n'est pas vous qui l'avez écrite. Mais au fond, finalement, si on vous suit, le pôle de gym à Aix-les-Bains ferme faute du conseil municipal. C'est à peu près la conclusion qui est la vôtre, sauf que, à propos d'un hébergement que nous proposons déjà sur ce sujet en particulier. Donc vraiment, encore une fois, complètement à côté de la plaque. C'est dommage que ce soit en plus polémique dans le ton que vous employez. Par ailleurs, vous voulez créer un internat nouveau, c'est bien, vous n'avez pas dit où vous trouvez le premier centime pour le faire. Et donc, au moment où on ne trouve déjà pas de quoi refaire la piste d'athlétisme, parce que l'État nous supprime nos dotations, je trouve ça particulièrement sidérant. Et par ailleurs, vous connaissez mal, ou plutôt celui qui a rédigé la question connaît mal le dossier, puisque la question de la fermeture du retrait du Pôle France n'est pas du tout liée à un problème d'infrastructure, mais vous auriez dû lire la lettre un peu plus en détail. Enfin, cette décision est tombée un vendredi. J'ai eu les représentants du club le samedi et le lundi, une lettre est partie de ma signature en direction du ministre des Sports et du président de la Fédération française de gymnastique. Donc on n'a pas attendu 15 jours plus tard votre vœu pour réagir, parce que sinon, effectivement, on aurait sans doute manqué à notre devoir. Ce qui, dans ce dossier, pour vous dire le fond de ma pensée, est choquant, c'est la décision sans appel possible, sans sommation et sans appel possible de la Fédé de gym. On est dans un pays de droit. On a remarqué que pratiquement toutes les procédures publiques sont soumises à recours possible. Là, c'est sans sommation et sans recours pour un club et une ville qui, main dans la main, depuis des dizaines d'années, investissent ensemble beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens financiers au service de la gym, avec des résultats absolument exceptionnels au plus haut niveau mondial. Voilà, donc le fait que cette décision intervienne comme ça de manière brutale, alors qu'en 2011, le dernier contrôle de la DTN était favorable et était plutôt élogieux sur la manière dont le club avait géré les choses, je trouve que c'est ça qui est déplaisant dans cette affaire. On va donc essayer, aux côtés du club, d'inverser la vapeur, mais très franchement, je ne suis pas très sûr que ce soit bien parti. On fera en tout cas tout ce qu'on peut. Et puisque vous avez peut-être des relais plus efficaces que moi sur le plan politique auprès de la ministre, du ministre des Sports, n'hésitez surtout pas à les actionner vous-même plutôt qu'à demander aux autres, moins bien placés sans doute, de les actionner. André ?
Oui, je voudrais simplement, très rapidement, parce que je sais que l'heure tourne, apporter mon éclairage d'ancien directeur technique national de l'athlétisme sur ce sujet. J'étais moi-même amené à fermer le pôle d'Aix-les-Bains athlétisme. Pourtant, il avait des résultats extraordinaires, puisque notre politique, c'était de concentrer sur des vrais pôles et pas sur des mini-pôles qui n'ont pas de moyens de fonctionnement et pour lesquels on n'avait pas les moyens de faire fonctionner, hein, parce qu'il y en avait plus de 100 en France, et c'est pas réaliste d'alimenter en structure socio-professionnelle, en structure médicale. Donc c'est avec vraiment un couteau dans le cœur que j'ai fermé le pôle de mon club support. Par contre, en contrepartie, on a orienté, puisqu'il y avait quand même quelques personnes qui méritaient d'être suivies sur Aix-les-Bains, suivies Morguer notamment en athlétisme, orienté vers un centre de formation des clubs, structure financée par la direction technique nationale, directeur technique nationale que j'étais, et qui sont beaucoup plus efficaces, parce que là, on donne, je vais dire, aux clubs les moyens de fonctionner et de s'en sortir sur les athlètes qui relèvent de ce suivi-là. Donc, je ne sais pas quelle est la démarche actuellement faite par l'Union Gymnique, ni les relations qu'elle entretient avec sa direction technique nationale, mais il faut savoir que c'est une directive générale de toutes les fédérations, surtout les années olympiques, où l'argent est concentré sur les médailles potentielles. J'espère qu'il y en a peut-être à la gymnastique, quoique l'aérobic n'est pas discipline olympique, mais c'est une voie indépendante des décisions politiques de droite, de gauche, du centre, mais c'est une décision qui va vers cette responsabilité des clubs, et moi j'ai défendu cette responsabilité des clubs parce que c'est la base, le club est la base de la formation de l'élite. Voilà.
Merci André, il n'est pas de coutume qu'on ouvre un débat, mais puisqu'on a commencé, Thibault.
Deux secondes, je connais un peu le sujet, j'y avais pas pensé avant, mais en effet il existe une justice sportive de fait. C'est le CNOSF qui dans ce cas-là un recours pour l'Union Gymnique et éventuellement nous pour la collectivité de signaler ce cas. Quand il y a des conflits à l'intérieur des fédérations, le CNOSF est un organisme qui fait de la justice sportive et qui règle ce type de conflit.
Bon, enfin écoute, on va essayer tous ensemble d'y arriver. Je crois en effet que c'est quand même compliqué. Ce que dit André, je pense, est frappé au coin du bon sens. Si j'ai bien compris, en plus en matière d'aérobic, il y a un sujet, c'est qu'il n'y a qu'un pôle France nationale. Et donc, les problèmes aixois font que celui qui, tu vois, n'est pas dans la bonne direction se retrouve sans possibilité. Et donc, l'idée d'adosser à un CREPS, voilà, c'est cette idée-là. Bon, néanmoins, je trouve encore une fois que le fait que ce soit comme ça un peu brutal, sans sommation, sans possibilité de réagir, est fatigant et désobligeant. Ensuite, nous avons un vœu toujours du même groupe concernant l'installation d'une blanchisserie industrielle à Chevaline. Dominique.
Donc, ce vœu est la suite logique de la lettre ouverte que nous avons envoyée à l'ensemble des conseillers municipaux avec copie au préfet à cause du non-respect par notre assemblée des délais inscrits par l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2015. Il reprend les craintes aussi bien des riverains que des associations reconnues dans leur défense de l'environnement. Maintenant, je vais vous lire la partie que nous soumettons au vote, en espérant que l'ensemble des conseillers municipaux ne se contentent pas d'approuver une décision de l'exécutif, mais réfléchissent sérieusement à l'importance et aux
Dominique,
conséquences.
Vous êtes là nouveau, nos conseillers municipaux, ils sont grands. Et ils réfléchissent autant que vous.
D'accord. Alors je vais vous lire la partie soumise au vote. Considérant l'importance de l'installation d'une grosse blanchisserie industrielle à Aix-les-Bains, tant pour son impact social qu'environnemental, considérant que le conseil municipal ne s'est prononcé que sur le droit de déposer un permis de construire et la cession d'un terrain, considérant que le conseil extraordinaire sur ce sujet évoqué par M. le maire en séance du 4 mai 2015 n'a pas eu lieu, considérant que seul un débat succinct avec peu de documents s'est déroulé lors du conseil municipal du 29 juin 2015, considérant les nombreuses questions et craintes des riverains et associations recueillies dans le dossier soumis à la consultation publique durant le mois de janvier, considérant les avis très défavorables déposée par certaines associations demandant une véritable enquête publique pour une installation soumise à autorisation. Considérant l'avis défavorable à l'unanimité de la commune de Mauxy, seule commune qui s'est prononcée dans les délais demandés par l'arrêté préfectoral, considérant qu'aucun chiffrage officiel sur le coût généré par cette installation pour les collectivités n'a été publié, notamment travaux d'assainissement, alimentation en eau potable, de voirie, considérant que les accès routiers actuels ne sont pas adaptés pour le trafic de véhicules de livraison et de 160 salariés, jour et nuit sans possibilité de transport en commun, considérant qu'aucun engagement d'utilisation d'énergie renouvelable n'a été pris par l'entreprise grande consommatrice de gaz et d'électricité, le conseil municipal, nous proposons de voter, le conseil municipal d'Aix-les-Bains demande à monsieur le préfet de Savoie de rendre un avis défavorable en l'état sur la demande d'enregistrement déposée par l'entreprise Elis et de mettre en place une procédure d'autorisation afin que le dossier puisse être examiné publiquement dans tous les domaines, que les questions posées par les citoyens et associations puissent obtenir des réponses avant qu'une décision ne soit prise.
Merci Dominique. Je vais donner la parole à Marina Ferrari. Je veux simplement dire que, comme vous en êtes un expert, si vous considérez que la commune, comme vous l'écrivez dans votre premier considérant, ne respecte pas les délais inscrits pour sa délibération, vous n'avez qu'à faire un recours sur ce sujet. Si vous êtes si sûr de vous que nous ne respectons pas, ou si vous pensez que nous respectons la loi, alors ne maniez pas l'argument. Mais on ne peut pas faire de la polémique pour la polémique, agiter des peurs pour agiter des peurs, simplement quand ça vous arrange. Si nous ne respectons pas les délais, faites un recours. Faites un recours. C'est votre possibilité. On est dans un état de droit, puisque vous proclamez tout le temps l'état de droit. Mais arrêtez de polémiquer. Vous êtes arrivé depuis quelques heures ici. Vous avez pris 4 fois la parole, 4 fois pour la polémique. Ça suffit. C'est un peu insupportable, pour vous dire la vérité. Marina.
Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, je vais vous inviter à rejeter le vœu présenté aujourd'hui par le groupe Unis et Citoyens et pour les raisons que je vais vous exposer. La question a été débattue au conseil municipal qui a déjà pris 2 délibérations sur le sujet. Ces délibérations ne sauraient être remises en cause. Le dossier a également été évoqué en commission municipale et également en commission à la communauté d'agglomération. Toutes les enquêtes des services de l'État, obligatoires en la matière, sont en cours. Je vous rappelle que c'est une procédure concernant une installation classée au titre de la protection de l'environnement, section 2, installation soumise à enregistrement et non à autorisation. Un registre de consultation publique a été tenu à la disposition du public conformément à la réglementation. Le dossier de consultation du public est à l'étude en ce moment, notamment à la DREAL, puis un projet d'arrêté devrait être ensuite émis par les services de l'État, et puis ensuite une étude par le CODERST, donc le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, examinera donc le dossier, puis ensuite l'arrêté préfectoral d'enregistrement pourrait intervenir. Donc nous sommes vraiment en cours de procédure. Enfin, deux réunions citoyennes, organisées par l'AXA, se sont penchées sur le sujet et des réponses ont déjà été apportées. Le groupe Elis s'est engagé sur certains points, notamment, comme vous le savez, une nouvelle desserte routière des Combaruches, qui est à l'étude au niveau de la Calbe, devrait venir améliorer l'accès aux Combaruches et donc à Chevaline. L'intégration paysagère et acoustique sera particulièrement étudiée pour limiter les impacts et la réglementation, et c'est heureux en la matière, est très contraignante sur ce type d'installation. Nous resterons bien évidemment, le groupe Elis ainsi que les élus, à la disposition des riverains dont nous avons entendu les inquiétudes. Je trouve, comme le maire, tout à fait insupportable votre façon d'agiter et de créer des peurs sur des aspects qui, bien souvent, ont été très bien étudiés par nos services et que vous remettez en cause de manière honteuse. Merci.
Merci. Sur ce vœu, qui est pour ? André, pardon.
Oui, je sais que sur un vœu, on n'intervient pas, mais moi, je voudrais quand même dire que depuis le mois de mars, je suis intervenu à 6 reprises en public, soit en conseil municipal, soit en commission, et je pense que vous vous en souvenez, vous m'en donnerez acte, sur les dangers qu'il y avait à laisser installer en l'état des connaissances qu'on avait cette blanchisserie. À 6 reprises, je vous ai mis en garde contre la consommation d'eau excessive, contre les rejets dans les eaux usées de certains rejets, oui, je vais dire. Et c'est pas pour être contre ou pour un vœu, mais c'est qu'il faut exiger d'Élise, comme je l'ai fait lorsque les représentants d'Élise sont venus nous voir, que tout se passe très bien. C'est-à-dire qu'ils respectent, au-delà de la législation, les règles de bon voisinage et de bon usage. Donc je ne veux pas, moi, aller plus loin dans cette enquête. J'ai déposé mes observations au commissaire enquêteur, parce que j'y tenais, mais je ne veux pas aller plus loin. Je fais confiance au service de l'État pour que tout se passe dans la règle et tout se passe bien. Voilà.
Merci André, puisque tu as repris la parole, je veux dire un... Tu veux dire un mot, Serge ? Non, je veux dire un petit mot. Ça ne vaut pas pour André Jiménez qui vient de terminer comme je souhaitais terminer moi aussi. On est dans le pays dont on dit qu'il est le plus administré du monde, le plus contrôlé du monde, avec des normes qui bien souvent étouffent l'activité elle-même. J'étais au salon de l'agriculture hier, allez demander aux agriculteurs ce qu'ils pensent des normes et de la paperasserie française. Et moi, comme André, je fais confiance, Dominique, aux institutions de la République et aux services de l'État. Et en particulier dans ces questions environnementales où je n'ai pas remarqué qu'ils avaient la réputation d'être particulièrement permissifs, en particulier la DREAL, qui fait son travail remarquablement et de manière extrêmement pointilleuse. Et donc, je veux dire aux riverains qui sont ici que vous agitez des peurs qui n'ont pas lieu d'être sur aucun des sujets que vous évoquez, et je me porte fort pour les riverains de l'intégration de cette usine et de cette activité dans le site. Mais vous devriez, vous qui êtes encore une fois souvent à donner des leçons d'état de droit, faire confiance un peu plus aux institutions de la République, aux fonctionnaires de l'État qui font très bien leur boulot, en particulier sur ces questions d'implantation industrielle et de respect de l'environnement. Sur ce, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ce vœu ? Ça fait 2. Qui s'abstient ? Ça fait 2. Je vous remercie. Ce vœu n'est pas adopté. La séance est levée.